Bon matin à tous et à toutes et une bienvenue cordiale à cette autre édition de l'émission Parole du matin. Ce matin, nous verrons la dernière portion de notre exposition du livre du prophète Daniel, alors qu'effectivement nous serons au chapitre 12 et que nous verrons les versets 1 à 13. Donc ce matin, Daniel chapitre 12, les versets 1 à 13, conclusion de notre étude sur ce livre-là. Vous aurez vraisemblablement noté que j'ai fait tout en mon possible pour ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, pour ne pas commencer à sillonner toutes sortes de pistes, n'est-ce pas, et de spéculations, mais de demeurer à ce qui est simple, à ce qui est évident dans le texte, et à ne pas faire dire à l'Écriture ce qu'elle ne dit peut-être pas. J'espère que cela aura été apprécié et vous aura été profitable d'une façon ou d'une autre. Cette dernière section de la vision de Daniel se veut une conclusion vraiment appropriée. Pardon. Une conclusion qui s'harmonise avec ce que nous avons vu de la vie de Daniel, alors qu'elle contient à la fois une révélation du plan futur de Dieu, en même temps qu'il y a une application pour le présent de Daniel. Alors on y retrouve aussi une illustration de l'éthique eschatologique. L'eschatologie, c'est l'étude de la fin des temps. Alors, une illustration donc de l'éthique eschatologique caractéristique à toute l'Écriture. Chaque époque de la révélation, je devrais peut-être dire à chaque époque de la révélation, le peuple de Dieu a toujours été encouragé à vivre à la lumière des promesses futures, hein, pour la simple raison que le présent n'est pas une fin en soi. On se dirige vers quelque chose, n'est-ce pas? Et on le voit déjà, d'ores et déjà dans le jardin d'Éden, alors qu'Adam et Ève reçoivent le commandement de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'intention voyons, excusez-moi ce matin. L'intention vraisemblablement était qu'un jour, ils pourraient en manger. D'ailleurs, c'est ce que nous voyons dans Apocalypse chapitre 2, verset 7. De la même façon, les héros de la foi ont vécu à la lumière du futur, hein, lorsqu'on parcourt ce que nous appelons traditionnellement la galerie de la foi. Chapitre 11 d'Hébreux, on voit cela. Entre autres, versets 39 et 40 de ce chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, nous lisons « Tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. » Bon, nous avons un temps humide au moment où j'enregistre cette émission-là, et il y a des répercussions, n'est-ce pas, sur la gorge. Voilà. Ce qui distingue les personnages de l'Ancien Testament, en général, est particulièrement vrai pour le prophète Daniel. Malgré tout ce que Dieu avait déjà accompli, là, jusqu'à maintenant, hein, il dit à Daniel que le temps de la consommation du royaume n'était pas encore. Alors, il y a un « déjà », mais il y a un « pas encore ». C'est dire que Daniel et compagnie, et nous sommes inclus dans la compagnie, là, nous inclus, nous devons attendre patiemment l'héritage final. C'est bien ce que nous retrouvons au verset 13 de ce chapitre 12. « Et toi, marche vers ta fin, tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. » Voilà. Le chapitre 12, en simple, là, se divise en deux sections. D'abord, les versets 1 à 4. Nous avons ici la conclusion de la prophétie qui avait débuté, on s'en rappellera, au chapitre 10, verset 20. Et les versets 5 à 13 du chapitre 12 contiennent le récit de Daniel concernant les derniers moments de son expérience de la vision. Premièrement, donc, versets 1 à 4, l'espérance de la gloire. Permettez-moi de lire ces versets-là. « En ce temps-là, se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Alors, plusieurs le liront et la connaissance augmentera. On va tenter de clarifier ces paroles-là au fur et à mesure de l'émission de ce matin. Le visiteur céleste, donc, a déjà parlé de la montée d'Antioche Épiphane, comme on l'a vu précédemment. Et la description de son activité blasphématoire semble servir de tremplin pour décrire une figure encore plus sinistre que le Nouveau Testament identifie sous l'appellation d'Antéchrist ou homme de péché. Et maintenant, il parle à nouveau de la fin des temps. L'Écriture sainte nous révèle que les derniers jours... Bon, ici, il y a beaucoup de confusion dans le monde évangélique sur ce que sont les derniers jours. Les derniers jours, là, c'est relativement simple. Hein? Le Nouveau Testament nous le dit. Quels sont les derniers jours? C'est la période entre la Pentecôte et le retour du Seigneur Jésus-Christ. Ce sont les derniers jours, c'est l'âge présent, n'est-ce pas? Alors, nous lisons en effet dans Actes chapitre 2, versets 16 à 17, l'événement même de la Pentecôte, mais c'est ici de dire Pierre, ce qui a été dit par le prophète Joël, « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. » Donc, les derniers jours ont commencé avec la Pentecôte et se termineront au retour du Seigneur Jésus-Christ. Donc, l'Écriture sainte nous révèle que dans les derniers jours, ou que les derniers jours seront ponctués de stress et de danger. L'apôtre Paul lui-même dira à Timothée, dans sa deuxième lettre, chapitre 3, verset 1, « Sache que dans les derniers jours... il y aura des temps difficiles, et ces temps difficiles-là vont atteindre leur apogée à la toute fin des temps. » Alors nous lisons donc au verset 1 de ce 12e chapitre de Daniel, « En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent, jusqu'à cette époque. Et en ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre de la vie, seront sauvés, les élus seront sauvés. Daniel ne doit donc pas être accablé à outrance, parce que Dieu pourvoira protection pour son peuple et il le fera spécialement par le ministère, par le travail de Michaël, ou Michel, si vous voulez, que l'Écriture nous présente comme un archange particulièrement impliqué dans la lutte avec Satan. On le voit d'ailleurs en Jude 9, où il est en pleine lutte avec le diable pour le corps de Moïse. Et on le retrouve aussi dans un autre endroit de l'Écriture, Apocalypse, chapitre 12, versets 7 et 8, où nous lisons ce qui suit. « Il y eut guerre dans le ciel, Michel, ah ben voilà, c'est le même Michaël, hein, et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. » 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 6-7, nous écrit ceci, et c'est énigmatique, c'est un peu obscur a priori. Nous lisons ce qui suit. « Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. » Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore et disparu. Vous savez, il y a certains commentateurs, et je pense que ça a beaucoup de sens, sans être dogmatique, c'est fort possible, certains commentateurs suggèrent que ce qui le retient pourrait bien s'agir de ce même archange Michael ou Michel. Quoi qu'il en soit, les références de Daniel au ministère de Michael ou de Michel et autres figures angéliques nous rappelle que nous ne vivons pas dans un univers impersonnel, voyez. Nous rappelle que la providence de Dieu, ce n'est pas une espèce de force impersonnelle qui sous-tend le développement de l'histoire. L'expérience consciente d'intervention angélique, bien sûr, c'est très rare, hein, mais leur activité, les anges, n'en demeure pas moins réelle. Rappelons-nous ce que nous dit Psaume 91, versets 11 et 12, « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Et nous avons déjà vu dans Hébreux 2, n'est-ce pas, que les anges, ce sont des esprits au service de Dieu pour exercer un ministère auprès de ceux qui doivent hériter le salut. Voilà. Donc, au verset 2, Daniel nous parle de l'espérance de la résurrection. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Et tout au long du livre de Daniel, nous voyons que le peuple se divise en deux groupes, hein? Ceux qui sont fidèles à Dieu, les croyants et les incrédules, et le jugement dernier viendra perpétuer cette division-là. Les uns donc ressusciteront pour la gloire éternelle, les autres pour la honte éternelle. Les croyants, les sauvés, décrits ici au verset 1 comme ceux qui sont inscrits dans le livre, sont ainsi qualifiés au verset 3. Ceux qui auront été intelligents, ça ne veut pas dire ceux qui avaient un quotient intellectuel supérieur aux autres, ceux qui avaient de l'intelligence, c'est-à-dire de la connaissance, ceux qui connaissaient Dieu, connaître veut dire naître avec, ceux qui connaissaient Dieu et qui marchaient avec Dieu brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, et pas temporairement, non, à toujours et à perpétuité. Vous voyez, on peut déjà apprécier dans l'Ancien Testament l'essence de l'espérance des croyants, à savoir la résurrection. La résurrection et la transformation qui l'accompagne, ou si vous voulez, la glorification dans les termes néo-testamentaires. Et dans cette merveilleuse perspective, Daniel doit préserver la révélation reçue. C'est ainsi que nous lisons au verset 4, scelle le livre jusqu'au temps de la fin, scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Pourquoi? Ben pour le bénéfice des croyants à venir, n'est-ce pas? Afin que ceux qui viendront plus tard, ceux qui viendront dans cette dispensation qui est la nôtre, en effet, puissent le lire et épuiser le même encouragement. La fin du verset 4 semble un peu obscure. Notre traduction va ainsi. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Le texte hébreu dit plutôt littéralement, plusieurs iront ça et là et la connaissance augmentera. Vous voyez, c'est quand même différent là. C'est littéral ça dans le texte hébreu. Plusieurs iront ça et là et la connaissance augmentera. Vraisemblablement, il s'agit d'un contraste entre le style de vie des citoyens de la cité de Dieu et le style de vie de ceux de la cité de la destruction. Alors que les croyants, eux, demeurent en sécurité dans la connaissance de Dieu, hein, connaissance qu'ils ont reçue par le biais de sa parole, ben que font les incrédules? Ben ils font ce qu'ils font encore aujourd'hui, vous voyez. Ils s'agitent dans leur quête de la réalité, ils fouillent un peu partout, ils tentent de trouver un sens aux événements et un sens à leur vie, indépendamment de la parole de Dieu. Et bien sûr, leur connaissance augmente, mais sans la parole de Dieu, c'est une connaissance vide, c'est une connaissance vaine. Ce n'est pas sans nous rappeler les propos, les paroles du prophète Amos, chapitre 8, verset 12 de son livre. Il nous dit, « Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'Orient, ils iront çà et là pour chercher la parole de l'Éternel, et ils ne la trouveront pas. Voyez-vous? Ces gens-là cherchent, mais ils ne cherchent pas au bon endroit. Ils cherchent une révélation surnaturelle, ils cherchent une compréhension, ils cherchent un accès à une espèce de métaphysique, n'est-ce pas? Mais hors de la révélation de Dieu, alors ils se butent constamment le nez sur la porte. Et nous avons ici, chers amis, une image de ceux qui rejettent Dieu et qui cherchent vainement ce que Dieu seul peut donner. On recherche le bonheur, on recherche la vérité, on recherche la réussite, etc., etc. Lorsque la vérité, ta parole est la vérité, sanctifiée par la vérité, devait dire Jésus, lorsque la vérité est rejetée au profit du mensonge, parce qu'il n'y a pas d'autre alternative, hein? Si on rejette la vérité, il reste quoi? Il reste le mensonge. Quoi qu'en dise, quel que soit le gargarisme, n'est-ce pas, des postmodernistes qui disent qu'il n'y a pas de vérité, que la vérité est relative, etc., etc., la vérité existe. Alors, lorsqu'on rejette la vérité au profit du mensonge, le contentement devient tout à fait impossible. Est-ce qu'on n'a pas ici une image vivide de l'humanité? Plus personnellement, là, vous qui m'écoutez ce matin, est-ce que c'est là votre condition, ami auditeur? Êtes-vous de ceux et de celles qui ignorent la Bible, mais qui sont très zélés, qui recherchent dans toutes sortes de philosophies, de théories humanistes, hein, qui recherchent des vérités, qui recherchent à se faire une philosophie de vie? Ou encore, êtes-vous parmi ceux qui ont mis leur foi dans la science en disant « la science va finir par tout régler, on va finir par nous accorder la vie éternelle sur la terre, n'est-ce pas ?» Voilà. Ben, si c'est votre cas, sachez qu'il n'y a pas de repos pour vous. Il n'y en a pas, il n'y en a pas eu, puis il n'y en aura pas non plus. Pour la simple raison qu'il n'y a pas de repos hors du repos et de la paix que nous trouvons dans le Christ Jésus. Matthieu chapitre 11, versets 28-29, c'est Jésus qui parle ici, là. L'invitation qu'il lance, « venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Vous savez, c'est fatigant, c'est épuisant, courir partout et sentir que le tapis nous glisse toujours sous les pieds. Tant qu'on n'a pas trouvé l'absolu, tant qu'on se meut dans le relatif, n'est-ce pas, on est sur un terrain instable, on est sur des sables mouvants. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et vous trouverez du repos pour vos âmes, de dire Jésus. Et ça m'amène à mon deuxième point, vivre avec des questions sans réponse, les versets 5 à 13 du chapitre 12 de Daniel. Et moi, Daniel, je regardais, et voici deux autres hommes se tenaient debout, l'un en deçà du bord du fleuve et l'autre au-delà du bord du fleuve. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, « Quand sera la fin de ces prodiges ?» Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans le temps des temps et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisé. J'entendis, mais je ne compris pas. Et je dis, « Mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses ?» Il répondit, « Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et éprouvés. Les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront, depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'aux 1335 jours. Et toi, marche vers ta fin, tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. » Voilà que deux autres figures célestes entre en scène ici. Et l'un d'eux pose la question, question qui bien sûr était sur les lèvres de Daniel et qui est aussi sur les nôtres, hein, verset 6, « Quand sera-ce la fin de ces prodiges ?» Et la réponse représente l'un des moments les plus solennels de la vision. Verset 7, « Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps. » Alors, il ne s'agit pas ici de sortir notre calendrier pour mettre le doigt sur une date. Nous avons déjà vu que cette expression fait simplement référence à une longue période de temps en général, en même temps qu'elle fait ressortir le contrôle souverain de Dieu sur tous les événements. Toutes ces choses, de dire le personnage céleste, viendront à terme. Verset 7. Toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Wow! Lorsque les forces des ténèbres, donc, auront causé le plus grand tort au royaume de Dieu, lorsque la vérité sera à son plus bas niveau, alors Dieu va agir. Vous savez, on retrouve les mêmes propos, hein, dans Matthieu 24, 25, hein, Dieu trouvera-t-il la foi lorsqu'il reviendra? Et l'Antéchrist va faire des choses tellement extraordinaires que ça pourrait séduire les élus s'il était possible. Voilà donc que Daniel entend à nouveau par révélation des nouvelles, des nouvelles alarmantes, et il veut en savoir davantage. Verset 8, « J'entendis, mais je ne compris pas, et je dis, « Mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses ?» Bien sûr que son souci est de savoir quand et comment tout cela va finir, n'est-ce pas? Ce n'était cependant pas à lui de savoir, alors que la figure céleste lui dit « Va, Daniel, car ses paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. » Voyez-vous, la mystérieuse prophétie qu'il a reçue ne sera comprise qu'au fil du développement divin de l'histoire. Ce qui est important pour Daniel de comprendre là, c'est que le peuple du Seigneur sera purifié et sanctifié à travers ces événements-là, comme le dit le verset 10. Plusieurs seront purifiés, blanchis et éprouvés, les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Et Daniel reçoit un mot final d'encouragement pour la situation du peuple de Dieu de son temps. Il reçoit un indice quant au point culminant de leur persécution. Verset 11. « Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. » Ça, ça fait référence, bien sûr, au jour d'Antioche Épiphane. Et au verset 12, « Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'au 1335 jours. » Il s'agit d'une période d'à peu près 3 ans et demi, suggérant peut-être que ce temps de souffrance n'est qu'un microcosme, n'est-ce pas, d'une période future d'un temps et la moitié d'un temps. Au verset 7, hein, « La période du temps de Daniel est cependant mesurée en jours afin de bien faire ressortir qu'elle a été soigneusement calculée. » Et elle est complètement assujettie au contrôle de Dieu. Elle sera cependant brièvement allongée d'un autre 45 jours. Et tout ceci sert à mettre en lumière le fait que Dieu seul change les temps et les saisons. Pour Daniel donc, chers amis, tout cela est à venir. Que devait-il faire? Ben, à la lumière des révélations précédentes qu'il avait déjà reçues, quant au plan futur de Dieu, sa tâche première était très simple. Elle consistait simplement à vivre pour la gloire de Dieu. Et c'est l'application constante de toute l'eschatologie biblique. Ça ne nous est pas donné pour satisfaire notre curiosité, n'est-ce pas, et pour montrer là que, oh boy, on devine le futur et on a une connaissance incroyable de ce qui va arriver. Non, la révélation nous est donnée pour que nous puissions vivre pour la gloire de Dieu. Voyez, sous une forme ou sous une autre, chaque passage du Nouveau Testament qui pointe vers les plans futurs de Dieu est porteur de cette même application. Permettez-moi de vous citer deux versets de la deuxième épître de Pierre, chapitre 3, versets 11 et 12. Puisque tout cela est en voie de dissolution, le monde dans lequel nous vivons, puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes? Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. La réponse biblique aux promesses de la venue du royaume de Dieu est toujours la même. Quelle est cette réponse-là? Très simple. Vivez maintenant pour le royaume. Reconnaissez maintenant son règne. Vivez maintenant dans l'obéissance à ses injonctions. Assumez maintenant vos responsabilités comme croyant. Alors, un jour prochain, vous entendrez la voix de votre maître vous dire, les belles paroles qui nous sont rapportées de la bouche même de Jésus, Matthieu 25, 21, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, entre dans la joie de ton maître. » S'il est une chose que ce chapitre nous enseigne, c'est ceci. Parce que le peuple de Dieu sera différent alors, il doit être différent maintenant. Et la question première est toujours la même. Faites-vous partie de ce peuple de Dieu? Avez-vous été transporté du royaume des ténèbres dans le royaume de la lumière de Dieu par la foi en Christ Jésus? L'invitation demeure et elle est lancée comme terme. C'est ce qui vient clore, en effet, c'est ce qui vient clore notre parcours de ce livre du prophète Daniel. J'espère que cela vous aura plu, vous aura béni, vous aura fait grandir dans la foi. L'émission vous revient en rediffusion à 14h cet après-midi. Entre-temps, vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante, AERBQ, casier postal 40088 Québec QC. G1H2S5. Notre adresse courriel se trouve sur le site internet de la station, foifm.com. Nous avons deux numéros de téléphone pour la région de Québec, 418-688-0506 et ailleurs en province. Un numéro sans frais, 1-877-659-0251. Je vous souhaite une excellente journée en grâce, en paix et en bénédiction et je vous dis à la prochaine.